Donc, Monsieur Frédéric Pronovost de l'organisme Réseau, pourriez-vous nous donner un petit peu plus de détails là, sur ce que c'est Réseau, puis qu'est-ce qui vous a amené, vous, à aller vers ce projet-là chez les couples, la violence de conjugale chez les couples d'hommes?
Donc, oui, c'est ça. Je suis co-directeur général de l'organisme Réseau, qui est un organisme de santé et bien-être des hommes gays bisexuels à Montréal. On offre différents services. On a un mandat de santé globale. Donc, on offre des activités de groupe, des ateliers. On a beaucoup de services aussi au niveau du VIH, TSS. Puis, au travers des années, on voulait augmenter notre champ de compétences puis aborder d'autres enjeux de santé qui touchaient les hommes de nos communautés. À travers différents projets de recherche, différentes données, on voyait que la situation de la violence dans les couples d'hommes était quand même quelque chose de très présent. Là. Si je ne me trompe pas, là, je pense que la violence conjugale, là, c'est à peu près c'est la troisième priorité là, en termes de santé, là, en termes de problématiques de santé chez les hommes, chez les couples d'hommes. Donc, en 2015-2016, à peu près, on a mis sur pied un projet à l'aide du Bureau de lutte à l'homophobie, un projet qui s'appelle VRAI, qui est violence dans les relations amoureuses intimes entre hommes. Le but était d'asseoir autour d'une même table différents acteurs, tant en violence conjugale qu'en diversité sexuelle, pour justement mettre nos expertises à profit, puis développer une expertise commune pour mieux aborder ces enjeux-là. Je te dirais, on part de loin, là, comparativement peut-être avec dans les couples hétérosexuels. C'est de reconnaître la première chose, c'est de reconnaître cette réalité-là. Nous, on part vraiment de là, tant au niveau des gars de la communauté que des organismes aussi. Je pense que c'est une des difficultés, là, juste de voir que ça, de nommer les choses, puis de voir que ce genre d'action-là, qui n'est pas nécessairement physique, parce que la violence, on va toujours souvent aller chercher ça. Donc, c'est ça, de former les professionnels à mieux dépister, détecter les situations qui peuvent être des cas de violence en couple d'hommes, mieux comprendre leur réalité, parce que c'est quand même, il y a plusieurs enjeux, puis je suis sûr qu'on va en parler plus tard, là, qui sont différents. Dans les partenaires qu'on a recherchés, on n'avait pas beaucoup de données. On le sait que c'est une réalité qui est présente, mais on n'avait pas plus de données que ça là, pour nous appuyer dans nos démarches. Donc, on a approché Valérie Roy à l'Université Laval, qui possède une expertise incroyable en violence conjugale. Donc, pour mieux nous accompagner, puis quelles données qu'on pourrait aller chercher ensemble là, pour mieux répondre aux besoins des gars de la communauté. Puis Valérie, elle avait des projets en ce sens, donc nous, on a embarqué là, tout de suite là, dans ce qu'elle voulait faire.
Justement, Mme Roy, vous, quand on vous a approché pour ça, vu que vous aviez surtout de l'expérience au niveau des couples hétérosexuels, est-ce que ça a été quand même une réflexion à faire ou ça a été quand même, vous étiez intéressé par le projet?
Oui, j'étais intéressée d'emblée parce que, comme Frédéric l'a mentionné, on avait déjà tenté quelques reprises, à deux reprises avant, je crois, d'obtenir un financement pour étudier là, la violence chez les couples de même sexe masculin. Malheureusement, bon, les demandes étaient recommandées, mais non financées, ce qui est souvent une réalité en recherche. Mais donc, à la suite de cette invitation-là, ben, je me suis jointe de façon très enthousiaste. Et là, il y a eu un concours de circonstances. Il y a eu un appel d'offres du gouvernement du Québec sur des projets ciblés en violence conjugale, particulièrement dans le contexte de séparation. Et on a monté une équipe qui relie un peu trois secteurs, violence conjugale, diversité sexuelle et santé bien-être des hommes, entre autres les ressources pour le contexte de séparation, pour un petit peu dans la même lignée, mettre l'expertise là, de ces trois secteurs-là, si on veut, en commun, puis essayer d'aller mieux comprendre ce qui se passe, parce que ce qu'on voit au Québec, c'est qu'il y a très peu de recherches sur la question. Il y a des recherches qui se font ailleurs, aux États-Unis, au Canada anglais, en Australie, mais il y a très peu de choses qu'on sait au Québec. Puis c'est important de documenter le contexte québécois, parce que, entre autres, les politiques sociales, l'organisation des services va influencer la problématique comme telle, mais aussi toute l'offre de services là, qui est offerte aux hommes.
Est-ce qu'il y avait des différences au niveau du protocole de recherche ou ces choses-là, ou ça a été un peu semblable à ce que vous saviez déjà au niveau des couples hétérosexuels?
Au niveau du protocole de recherche, bien, c'est sûr qu'on est, comme Frédéric le mentionnait, la première étape, je pense qu'on en est à reconnaître puis à parler du problème. Donc, on est plus dans une recherche descriptive exploratoire. Donc, c'est quoi les formes de violence qui sont vécues et qui sont agies? Parce qu'on a décidé aussi d'inclure autant les hommes auteurs que les hommes victimes. C'est quoi les facteurs de risque, les facteurs de protection? Qu'est-ce qui fait, par exemple, qu'une personne, qu'un homme va être plus à risque de vivre la violence ou d'en exercer? C'est quoi aussi les besoins? Parce que c'est un projet, le projet de recherche actuel est vraiment centré sur l'amélioration des services pour répondre aux besoins des organismes dans les trois secteurs là, qu'on mentionnait tantôt, dans le but de développer des stratégies d'adaptation, adapter les outils d'intervention existants pour mieux considérer les particularités, les spécificités de la violence chez les couples d'hommes.
Justement, là, où, est-ce que la recherche en tant que telle est terminée ou vous êtes encore en processus?
La recherche est en cours. On est actuellement encore en recrutement. Donc, pour les personnes intéressées qui nous écoutent, sachez là, que vous pouvez manifester votre intérêt soit en allant sur le site de réseau ou en allant là, sur ma page à l'Université Laval. Donc, la recherche comme telle, on rencontre des hommes qui ont soit vécu, soit exercer de la violence dans un contexte de séparation et on leur demande de nous partager leur expérience parce que la logique, c'est que si on veut adapter les services, les personnes les mieux placées pour nous orienter dans cette adaptation-là, c'est les personnes qui sont au cœur, qui vivent cette problématique-là. Donc, on leur demande de nous partager leur expérience dans le cadre d'entrevues confidentielles, évidemment, d'une durée là, d'une heure et demie, deux heures à peu près.
Est-ce qu'il y a des critères particuliers dans le sens de, d'âge ou de vécu pendant tant d'années en couple, etc., de ce type-là?
Il y a des critères, bien, se reconnaître comme un homme, s'identifier comme un homme, évidemment avoir vécu une relation amoureuse ou intime avec un autre homme, avoir vécu un contexte de séparation et s'exprimer là, en français ou en anglais, là.
Monsieur Pronovost, est-ce que c'est aussi un sujet tabou chez les gays, la violence conjugale?
Oui, c'est pas un sujet qui se parle, qui se parle du tout. C'est un défi, en fait, pour le recrutement. Au départ, là, quand on avait commencé, je m'imaginais qu'on allait trouver, on n'a pas un grand nombre de participants qu'on voulait avoir, puis je m'imaginais qu'on allait les trouver hyper rapidement. Puis finalement, on a eu beaucoup plus de difficultés que je le pensais. On a quand même mis beaucoup de promotions sur les différents médias sociaux, en personne et d'autres choses. Mais à la base, c'est que les gens ne reconnaissent pas les situations de violence. Okay. Fait qu'il n'y a pas de discussion qui se fait alentour de ça. Donc, le projet de recherche a été quand même une hyper bonne opportunité pour juste le mettre sur la table, discuter de cette situation-là, de ces enjeux-là. Dans nos communications, on est allé un petit peu plus sur qu'est-ce que différents types de violences pour que les gens puissent mieux s'y reconnaître. Puis à partir de là, ce qui est intéressant avec le projet de Valérie, c'est que nous, ça va nous offrir aussi des outils d'intervention. On ne va pas juste évaluer la situation, voir comment les gens le vivent, mais il va y avoir des outils qui vont être produits aussi à travers le projet. Donc, c'est là aussi comme organisme qui est vraiment intéressant pour nous.
Vous parlez donc de la reconnaissance du problème, en fin de compte, de la problématique. Est-ce que vous avez l'impression que c'est plus difficile chez les couples du gay que cette reconnaissance-là? Est-ce qu'elle est moins évidente que chez les femmes et hommes?
Définitivement, parce qu'on a une définition, je pense, plus hétérosexuelle de ce qu'est la violence. C'est souvent, c'est ça, c'est l'homme qui est le plus souvent violent et la femme qui va être victime. Tandis que dans des couples d'hommes, c'est peut-être plus, c'est un concept qui est peut-être moins présent chez les hétérosexuels, mais c'est peut-être plus bidirectionnel. Donc, tu sais, la personne peut être auteur et victime à la fois. Okay. Rendu là, chez les gens, je pense, dans leur analyse de leur situation, de leur vécu, c'est peut-être plus difficile de départager si je vis une situation de violence ou c'est de la chicane, ou ben moi, j'ai amené ça, fait que là, lui, il va minimiser un peu les impacts que la situation de violence a sur sa propre vie. Donc c'est des choses qu'on n'a jamais vraiment parlé non plus. Puis, tu sais, à travers les années, on s'est beaucoup battu comme communauté aussi, juste pour se faire reconnaître. connaître. Donc, c'est sûr de mettre sur sa table de dire que ben on a des problématiques de violence dans nos relations intimes et amoureuses. C'était pas quelque chose qui était la première affaire qu'on voulait parler. On voulait en premier que les gens puissent reconnaître et accepter notre orientation sexuelle. Maintenant, je pense qu'on a progressé à travers le temps, puis de là aussi toutes les actions qui sont alentour de ça là, pour pouvoir parler de la thématique, puis mieux accompagner les gens qui vivent ces situations.
Est-ce que vous avez l'impression que c'est, parce qu'on dit souvent par rapport à la violence, quand des hommes subissent de la violence, pour eux, c'est encore plus tabou, honteux que de dénoncer tout ça. Est-ce que vous avez l'impression que c'est la même chose chez les gays?
Oui, définitivement. Parce qu'on se dit, tu sais, puis là, c'est toute la vision de l'homme aussi en général, tu sais, puis ça, on peut l'adapter aussi chez les hommes hétérosexuels. Quelqu'un, un homme qui vit de la violence, il est supposé être fort, mm-hmm. il est supposé être capable de se protéger, mm-hmm. Il est supposé résister à tout ça. Donc déjà là, je pense qu'il y a un sentiment de faiblesse, donc de déni peut-être, où les gens vont tenter de minimiser les situations. Après, il y a aussi la reconnaissance dans les services, tant policiers, ou dans les services communautaires, ou les services d'aide aussi, des personnes qui vivent en violence, de reconnaître que certaines situations, le gars, oui, effectivement, il vit de la violence aussi. Puis je vais juste aborder comme les services policiers en particulier, des fois, il y a certains protocoles qui ont été hyper bien établis pour les violences hétérosexuelles qui ne seront pas nécessairement suivis ou juste détectés que les deux gars, ils sont en couple, puis c'est une situation de violence conjugale qu'ils vivent. Des fois, tu sais, il peut y avoir des interventions policières s'il y avait une dispute ou quelque chose comme ça, qui vont aller là, à l'appartement où normalement, ils les mettent chacun dans une autre pièce. C'est pas techniquement toujours le cas qui est fait. Il va penser qu'il est en coloc. Il y a beaucoup de présupposés, oui, effectivement, que les deux sont hétérosexuels. Fait que déjà là, ça l'aide pas à reconnaître la réalité.
Et vous, Mme Roy, là, est-ce que vous voyez un peu, justement, à part le fait du recrutement, vous voyez certaines choses qui peuvent être plus difficiles à détecter dans votre processus de recherche, ou ça va être un peu le même type de ce que vous avez vécu jusqu'à maintenant?
Mais les difficultés que Frédéric mentionne, on les voit justement dans le recrutement, et c'est ce que les hommes nous disent dans l'entrevue. Il y en a qui acceptent de participer, mais qui au téléphone nous disent « ben là, je suis pas sûr que je réponds aux critères. Moi, je n'ai pas vécu de violence physique. » Mm-hmm. Donc, juste identifier la violence, là, c'est déjà beaucoup. Et souvent, dans les entrevues, les hommes, on pose des questions, comment ça se passait, et là, ils en viennent à réaliser, au cours même d'entrevues, « Ah, oh, mon Dieu, j'ai vécu plus de violence que je pensais. Mm-hmm. » Par exemple, ils vont peut-être identifier d'emblée la violence verbale ou la manipulation, mais là, dans le cours de l'entrevue, ils vont se rendre compte qu'il y a eu beaucoup, beaucoup d'autres formes de violence qu'ils ont vécues. Et je pense que les difficultés de recrutement qu'on vit dans le projet témoignent de ce besoin de reconnaissance-là. Et moi, c'est la première fois que ça m'arrive de façon aussi majeure dans une recherche d'avoir autant d'appels pour de l'aide et de l'orientation plutôt que pour participer à la recherche. C'est sûr que quand on fait une recherche, ça peut arriver. Ça m'est déjà arrivé, mais là, de façon aussi importante. Et donc, évidemment, quand une personne nous appelle puis nous dit « Bon, ben j'ai vu l'annonce de recherche, moi, j'appelle plus pour avoir des ressources d'aide ou savoir quoi faire », ben on la réfère. Là, on force pas la participation à la recherche de façon bien évidente. Donc, on a fait beaucoup de références comme ça, de façon plus importante que dans d'autres projets de recherche. Fait que je pense que ça témoigne vraiment de la nécessité d'en parler, puis d'aller regarder qu'est-ce qui se vit et comment ça se vit. Finalement, ce qu'on constate, c'est qu'il y a très peu d'espace de parole pour les hommes qui vivent la violence.
Monsieur Prenevot, vous parliez tantôt là, de l'adaptabilité que devraient avoir les corps policiers par rapport à justement à cette problématique-là différente. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y aurait plusieurs niveaux, à plusieurs l'approche au niveau des CLSC, l'approche des services qui doit être. Vous avez l'impression qu'il y aura beaucoup de choses à adapter?
Peut-être adapter, oui, effectivement, de mieux comprendre les réalités seulement homosexuelles en général, de mieux comprendre la diversité sexuelle, parce qu'il y a certains types de relations aussi qu'on va moins retrouver peut-être dans les couples hétérosexuels, même par exemple le polyamour, des choses comme ça, qui est peut-être plus fréquent dans la communauté, qui va rajouter d'autres défis quand on veut tenter de comprendre la relation. Mais ensuite de ça, c'est simplement, je pense, de mieux la détecter. Il y a une partie qui c'est facile, puis c'est là l'objectif aussi qu'on a à réseau, d'aller rencontrer les gens, former les professionnels, juste à aborder le sujet. Puis, des fois, on a tendance à croire qu'il faut être expert, connaître tout ça, mais des fois, c'est juste d'écouter la personne, puis de dire, oui, ta réalité, elle existe, puis ça va faire une grosse différence. Je pense que c'est une partie que nous, on veut tenter de travailler à juste déstigmatiser la chose, puis que les gens puissent être accueillis, peu importe dans laquelle porte qu'ils vont utiliser.
Alors, Mme Roy, quand on parle de couple homosexuel, est-ce qu'il y a des spécificités là, qu'on reconnaît là, au niveau de la violence conjugale?
De façon générale, il y a des points communs. Je vais partir de là avec la violence chez les couples hétérosexuels. C'est les mêmes formes, là, la violence physique, la violence verbale, la violence sexuelle, la violence psychologique. Par contre, ces manifestations vont varier. Par exemple, dans la violence sexuelle, le chantage, les menaces, ça peut être de dévoiler, par exemple, l'orientation sexuelle. Okay. Ça peut être de dévoiler le statut sérologique du partenaire. Okay. Donc, il y a des enjeux comme ça qui vont venir colorer, je vous dirais, chacune des formes. Et il y a une forme qui est vraiment spécifique au couple d'hommes, c'est la violence à caractère homophobe. C'est-à-dire que au sein du couple, il va y avoir une reproduction de l'homophobie. Par exemple, un partenaire va traiter son conjoint de tapette, de fif, va dénigrer finalement son orientation sexuelle. Je reviens à violence psychologique, de refuser d'officialiser, je dirais, là, la relation en public. Tantôt, Frédéric parlait du contexte de polyamour. Donc ça, au niveau de la violence sexuelle aussi, ce qu'on se rend compte, c'est que ça ajoute des enjeux. Il y a, par exemple, des ententes, parfois d'exclusivité amoureuse qui sont négociées. Finalement, ça évolue. Est-ce que c'est toujours négocié est-ce que les partenaires sont toujours 50% d'accord avec l'entente? Donc, ça rajoute, je dirais, d'autres dimensions qu'il y a peut-être moins là, chez les couples hétérosexuels. Bon, il peut y avoir du polyamour chez les couples hétérosexuels, mais en tout cas, moi, c'est quelque chose que dans les connaissances, j'ai peut-être un petit peu moins vu chez la violence chez les couples hétérosexuels. Là, jusqu'à présent, là, du moins.
Peut-être justement pour terminer, Mme Roy, nous rappeler là, c'est des hommes qui sont à l'écoute et qui vivent une relation, en tout cas, en fait, qui ont vécu une séparation au niveau d'un couple homosexuel. C'est quelle façon qu'ils peuvent participer à cette recherche-là?
Donc, vous pouvez écrire à violence avec ton ex, @ulaval.ca, ou aller voir sur le site Internet de réseau, où il y a les façons de communiquer avec nous. Donc, les critères, c'est ça, c'est d'avoir vécu de la violence dans un contexte de séparation, dans le cadre d'une relation avec un autre homme.
Puis, M. Pronovost, peut-être pour inciter plus d'hommes à participer, peut-être nous rappeler les bienfaits, les objectifs, en fait, qu'est-ce que ça va amener, là, peut-être après, pour les différents services qui pourraient être amenés.
Bien, le projet, ça va servir à développer une page web avec un outil de détection pour que les gars puissent eux-mêmes aller reconnaître là, qu'est-ce qu'ils vivent comme situation de violence, etc. Mieux développer nos services. Il y a plein de questions qui vont être sur les besoins, comment on pourrait mieux les accompagner. Fait que c'est sûr que ça va aider Réseau puis tous les organismes à travers le Québec pour mieux adapter. Donc, leur vécu est important. Ça fait du bien aussi d'en parler. En soi, là, je pense qu'eux, ils vont en retirer des bénéfice, mais ça va pouvoir aider toute la communauté à travers le Québec aussi, leur participation. Fait que des fois, faites juste appeler, puis tu sais, évaluez pas, tu sais, ils n'ont pas besoin d'évaluer eux autres à l'avance, là, si ils répondraient aux critères. Appelez si vous reconnaissez certaines situations, puis l'équipe, on va voir, tu sais, s'ils rentrent là-dedans, mais tous les vécus sont importants.